Hey, c'est Léa pour Intimité Partagée. Dans cet épisode, on fait un format un peu différent où je vais axer l'interview sur un seul sujet qu'on va développer pour essayer de faire des interviews un peu plus courtes parce que j'ai eu des retours sur le fait que les interviews étaient un peu longues jusqu'à présent. Donc je vais continuer à faire mes interviews longues, mais j'aimerais aussi développer des interviews plus courtes où on va vraiment parler que d'un seul sujet et développer là-dessus. Et aujourd'hui, je commence avec Louis qui va nous parler d'écriture. Et aujourd'hui, je vais parler d'écriture avec Louis. Salut Louis!
Salut!
Du coup, Louis, quel est ton pseudo d'auteur, pour commencer ?
Alors, mon pseudo est Arsène River.
Pourquoi ?
C'est long, mais je pense que, je sais que j'y ai beaucoup réfléchi. J'ai dû le trouver, je crois que j'étais en première au lycée. Et en gros, Arsène, ça vient de... je me suis perdu sur, sur Internet, dans des sites pour rechercher des prénoms. Donc souvent, c'est des sites genre maternité et tout, voilà. Et en fait, de base, j'étais parti d'Iris ou un truc comme ça parce que je voulais un lien avec l'œil. Et j'ai trouvé Arsène et j'ai eu un coup de cœur. Et j'étais en mode, en fait, c'est trop bien. Et après, pour River, ça vient du fait que suite à... Enfin, en fait, j'ai cherché plusieurs noms de famille et tout pour que ça fasse cohérent. Et en fait, à force de m'habituer à Arsène et à chercher un nom derrière... j'ai créé en fait le personnage d'Arsène en me disant que c'était la version genre comment dire prévue de moi une fois que je serais publié et tout, genre avec beaucoup d'orgueil et tout, et enfin vraiment ce truc de beaucoup d'orgueil, de la réussite et tout, voilà. Et il y a eu ce truc de créer un autre personnage qui était du coup le moi d'avant, donc plus enfant, et que j'ai appelé le rêveur parce que j'ai tout le temps écrit... En fait, c'était aussi le surnom que je me donnais pour parler de moi dans mes textes quand je parlais à la troisième personne. Et du coup, voilà, c'est devenu... Enfin, j'ai associé les deux et voilà, quoi. Et donc, j'ai fini par changer l'orthographe de rêveur pour River pour que ça fasse un peu plus un nom de famille. Mais ça vient de là.
Ok, et pourquoi t'as voulu avoir un pseudo ou un nom qui n'est pas le tien plutôt que d'écrire sous ton propre nom ?
Parce que déjà, c'est pas que j'aime pas mon nom, mais c'est parce que je trouve que ça sonne pas incroyablement poétique ou quoi. Et je suis assez attaché à ça, genre tous mes textes poétiques courts. J'essaie de faire vachement attention à la valeur, à la charge poétique ou valeur poétique qu'ont les mots, pour rester toujours dans ce truc distant de mon écriture normale, quoi. Et du coup, il y a aussi ce truc où j'ai tout le temps voulu... Enfin, en fait, genre, à force de me renseigner sur les auteurs et tout, je me suis rendu compte que c'était bien de mettre de la distance avec du coup, le lecteur et tout. Et j'ai tout le temps été un peu fasciné par ce truc de... c'est un personnage, tu vois, et si jamais, genre, si jamais je veux arrêter, je dis que Arsène est mort, et voilà, quoi. Mmh. Et... en fait, il y a ce truc de dissocier du coup le personnage de moi,
ouais.
et de pouvoir faire un peu autrement. Mais après, en soi, enfin c'est la même chose, tu vois. Genre, c'est juste que genre c'est faire en sorte que le nom rende un peu mieux, mmh. Et que si jamais et que ouais, c'est ça, que je puisse mettre à part en cas de célébrité inopinée. Et ouais, aussi pour protéger mes proches un peu de ça. Genre, je sais que mon nom du coup restera pas.
Ok, donc ouais. Vraiment dissocier ta personne civile, on va dire,
ouais.
De l'artiste
ça.
Que tu
c'est
es.
Ça, c'est ça.
Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire au tout début, à la base de la base ?
Alors déjà, j'ai beaucoup lu. Je pense que c'est parce que j'avais pas d'amis. Mais
on en parlera plus tard, du coup, dans la seconde interview.
Oui, bon, on tease. On boit pas d'alcool, hein. C'est une expression.
Le teasing.
Et c'est moi qui vais rire, en fait, c'est incroyable. en fait, ouais, j'ai beaucoup lu, j'ai eu une espèce de déclic. Dès que j'ai su lire et écrire, j'ai commencé à faire des trucs, genre je dessinais beaucoup, genre CP, j'ai commencé à écrire. Du coup, genre je faisais des trucs avec un orthographe défaillant, donc ça voulait rien dire, mais il y a que moi qui étais en mode « mais si, ça veut dire ça, écoute !» Parce que c'était plus au son qu'autre chose. Et en fait, à force de lire, je me suis habitué à ça. Et, Et je ne sortais plus, genre, pendant les récréations et tout, genre, c'était en école primaire, c'était en CM1, hein, je me rappelle, parce que mes potes préféraient faire du foot, et moi non, parce que c'était chiant, c'était physique. Et du coup, je restais dans la classe pour lire, et j'ai lu, je crois, tous les livres qu'il y avait dans la classe. Et il y en a un où, qui s'appelait L'Ours Bleu, je crois. Et j'ai vraiment eu un déclic de... En fait, j'ai terminé, et j'ai eu un déclic, genre... C'est ce que je te disais, c'est genre trop dur à décrire, mais genre une espèce de coup de foudre sur le moment, et genre en mode je veux faire ça, tu vois, genre je veux faire ressentir ça. Et genre vraiment, mais dans la seconde, j'ai sorti une feuille et j'ai essayé d'écrire quelque chose et tout. Et comme je joue à Pokémon, c'était une espèce de truc genre, oh, il a trouvé un Pokémon dans la haie de laurier du fond de la cour. Mais c'était pas incroyable, ça faisait genre une page. Mais en fait, ça vient de là, et j'ai tout le temps fait un peu ça. Je l'ai un peu lâché genre en sortant de primaire, parce que fallait grandir, tout ça. Et je dis ça comme si je rentrais au lycée ou à la fac, mais vraiment, genre voilà. Et arrivé au collège, je me suis dit que c'est ce que j'aimais faire, et je jouais beaucoup avec mes figurines et tout quand j'étais petit. Et pour arrêter ça, et du coup, pour grandir, je me suis dit, mais vas-y, genre, j'ai qu'à faire ça en écriture. Comme ça, en plus, je pourrais le faire partout, genre même en cours si je veux. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire. Genre, ouais, sixième, j'ai commencé à écrire mon premier roman qui ne s'est jamais terminé, mais qui mettait en scène mes personnages de jeu, quoi. Donc voilà, enfin mes figurines.
Ok. Et dans tout ce début de processus, à part du coup ce livre qui s'appelle L'Ours Bleu...
Ouais, je crois que c'est ça. J'ai essayé de le retrouver et genre, okay. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, lui.
Et sinon, c'était quoi tes inspirations et ce qui nourrissent ton écriture?
Au tout début, c'était... parce qu'en fait, j'ai lu très tôt des livres... que maintenant je voudrais relire mais que je prends pas le temps. Genre l'intégrale Narnia, intégrale Croisée des Mondes, ces trucs genre je les ai lus mais genre ouais vraiment fin de primaire quoi. Et enfin âge normal mais voilà quoi genre maintenant je sais que je comprendrais plus de trucs. Et je pense que c'était vraiment dans mes plus grosses inspirations. Et du coup ouais Pokémon en fait je crois que c'était un des vraiment premiers jeux qui était rien qu'à moi sur DS et tout où je pouvais faire ce que je voulais. Et non, du coup, ouais, je pense que c'était une de mes plus grosses inspirations au début. Puis après, bah, c'était vraiment mes figurines, en fait. Parce que je leur avais attribué telle personnalité, tel truc. Et du coup, bah, au final, genre c'est comme ça que je les ai... Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en scène dans mes romans, quoi. Enfin, dans mes écrits.
Ok. Quels sont les moteurs qui te font écrire et, après, les obstacles?
Genre, ce qui me motive à écrire ou...
Ce qui font que tu vas écrire en fait. Ouais, ce qui te motive, ouais. Ce qui te lance.
Bah en fait, l'espèce de sentiment dont je parlais qui est assez complexe, que je saurais pas trop définir parce que c'est très fort et vraiment instantané, genre ça m'est arrivé plein de fois de sortir d'un film et être en mode ok, faut que j'écrive maintenant. Et c'est un truc, ouais, vraiment presque de l'hystérie, mais genre concentré sur un seul truc. Et ouais, une énergie en fait, enfin je sais pas trop comment expliquer ça autrement.
Mais ça naît de quelque chose de culture en fait, puisque tu disais ouais. Le livre, le film maintenant,
ouais.
Donc c'est, ça part souvent de quelque chose
ouais,
que
clairement.
Tu vois.
Ça part d'une espèce de fascination de c'est trop bien en fait ce que j'ai vu, et je veux trop faire des trucs aussi bien, et j'ai besoin de créer à ce moment-là, tu vois.
Ok.
Et du coup, enfin il y a ça, et il y a... je sais pas, enfin en vrai je sais pas trop parce que j'ai un peu décroché de l'écriture écrite, enfin manuscrite en tout cas, et vu que je retape, mais je pense que ouais il y a ça et la musique aussi un peu, genre il y a certaines musiques où je vais me mettre dans une ambiance de concentration, mais vraiment genre j'écoute que ça et c'est souvent des musiques très rythmé, très énervé, pour mettre dans une espèce de colère et de, enfin voilà, d'énergie en fait. En fait, pour retrouver ça, et voilà. Mais je saurais pas trop répondre autrement, ouais.
Bah, c'est déjà bien comme réponse. Et du coup, les obstacles, si tu en as
La page blanche.
Ouais.
Page blanche et le monde autour de moi. Je sais que quand j'étais encore chez moi, c'était... très chiant parce que tu sais, il y a un moment où il faut aller manger, et toi t'es là, ben non, parce que genre là j'ai envie d'écrire pour 4 heures, Et je mangerai, vas-y, amène-moi mon assiette et genre si tu veux, genre. Mais je mangerai pas avec vous, quoi, je suis trop concentré. Et ça, c'était pas possible. Parce que du coup, j'y vivais en famille, on est 6, donc voilà. Et sinon, obstacle, ouais, c'est les gens, un peu le besoin de s'isoler, mais du coup, des fois, ça peut paraître mal vu en fait. Parce que, enfin, après, c'est aussi moi qui ai dû apprendre à le gérer. Mais parce que mettre ses écouteurs quand on est en groupe pour écrire, bon, ça se fait pas trop. Mais du coup, maintenant, non, j'essaie de faire comme ça. Et après, ouais, ça dépend d'où j'écris. Quand j'écris en cours, quand j'écrivais en cours mon roman et tout, bah, c'était très impulsif. Et du coup, je me déconcentrais de tout, donc en soi, ça va. Parce qu'en soi, j'ai tendance à rentrer vraiment dans ma bulle assez vite quand j'écris. Et sinon, ouais, la page blanche, en fait, je sais pas trop comment ça se déclenche, mais il y a des espèces de moments où rien n'est bien, chaque mot, c'est pas le bon. Et en fait, rien ne convient. Et je sais pas comment dire ça, en fait, il y a personne qui peut t'aider et te dire genre... en fait, les seules aides que t'as, c'est vraiment genre, ah, c'est dommage et tout, genre... Putain, j'espère que ça va revenir pour toi parce que t'aimes bien écrire. Bah bravo, merci. Et du coup, c'est compliqué à gérer. Et donc je me suis un peu habitué. Genre je sais qu'il faut écrire justement. Et j'ai tendance à faire des pages et des pages pour rien dire où justement je suis là. Je suis en page blanche, faut que j'écrive. Et généralement, en fait, j'arrive à m'en sortir en faisant ça. Et surtout en laissant un peu aller et en étant en mode bon, c'est pas grave si j'écris pas. Autant faire autre chose et regarder quelque chose d'intéressant ou voilà.
Ok, donc des obstacles plutôt ciblés sur la peine d'inspiration et le monde qui t'entoure.
Ou des blocages. Ça peut m'arriver, ouais. Genre, par exemple pour mon roman, des moments qui me font chier parce que c'est pas hyper intéressant, parce que ça manque un peu d'action ou quoi, et que c'est essentiel à faire, mais que je peux pas faire autrement parce que sinon c'est pas cohérent. Et du coup, bah, je suis un peu en mode bon, bah, vas-y, faut que je le fasse. Allez, encore un tout petit peu, et on sort de cette situation. Et voilà, du coup, ça peut être un obstacle parce que ça fait que je peux ne pas revenir vers mon roman tout de suite et le laisser un peu de côté. Mais voilà.
Ok. Et quel est ton moment d'écriture ?
Mon moment d'écriture ?
Le moment plutôt récurrent où tu écris, genre le matin, la nuit ?
Il y en a pas.
Ouais.
Vraiment, je peux écrire à n'importe quel moment. J'ai beaucoup écrit dans les transports en commun parce que bah, faut attendre et tout, donc voilà. Mais en vrai, je sais qu'il y a des moments où j'ai pas le choix et genre je ressens justement ce truc d'énergie et je suis en mode c'est maintenant. Et genre du coup, en cours, je l'ai beaucoup fait, que ce soit genre dans l'après-midi, dans la matinée. Mais quand je suis vraiment en champ libre, que j'ai pas de cours pour me structurer dans mes journées, c'est plutôt la nuit parce que j'ai tendance à me coucher tard et du coup. Forcément, je me décale, donc je commence. Mon rythme normal, c'était vers minuit, je commence à écrire, et vers 4h, 6h du matin, je m'arrête et je vais me coucher, quoi. Mais voilà, j'essaie de un peu quitter ce rythme pour l'inverser, justement.
Ok. Voilà. Quel est ton lien avec ta créativité ? Comment tu la vois et comment tu l'entretiens ?
Je pense qu'elle naît de l'ennui. Et très vite, j'ai tendance à me déconcentrer des choses qui m'intéressent pas. Par exemple, les cours, dès que je trouve ça un peu chiant, et si je me motive pas un minimum pour être en mode non, vas-y, suis vraiment, genre, sois sérieux, bah, je vais soit sortir mon agenda qui me sert plus ou moins de cahier de brouillon, soit dessiner, écrire un peu, genre, des espèces de rimes, faire quelque chose, quoi. Mais vraiment, année de l'ennui. Et voilà.
Et tu l'entretiens comment ? Enfin, est-ce que tu fais des choses pour l'entretenir ou juste c'est naturel et...
Ben ça en fait, ça l'entretient beaucoup parce que mine de rien, je le fais tous les jours. Je sais que mon roman c'est une de mes plus grosses motivations, genre j'essaie vraiment d'écrire tous les jours, au moins un peu. Si je le fais pas, c'est parce que soit je suis trop... soit je suis censé être dans mes cours et donc c'est normal que je le fasse pas. Soit, Soit voilà, en fait, soit je fais autre chose et je décroche parce que j'ai besoin de d'étendre un peu mon cerveau. Mais en général, ouais, c'est ça, genre beaucoup écrire et surtout regarder des séries et des vidéos. Parce que je lis presque plus en fait, genre, mis à part manga, BD. Ouais, non. Depuis que j'ai des livres à lire obligatoirement, je lis plus trop, quoi.
Ok.
Donc, ouais, surtout séries, séries vidéo, quoi. Et films.
En tant qu'amie de toi, je sais que tu as un peu un besoin de partager tes textes, puisque tu me les partages souvent et je sais que tu les partages à d'autres personnes. Qu'est-ce que ça t'apporte de partager tes textes et pourquoi tu le fais, tu penses?
En fait, je pense que c'est pour exorciser le fait de se faire lire. Parce que je connais d'autres personnes qui écrivent et qui n'aiment pas se faire lire. Enfin, en ont plus ou moins peur.
J'adore ce
On
podcast.
va vraiment, c'est vraiment dans les pires conditions possibles. Quand on pourrait enregistrer sur la route, ce serait pareil. Et non, ouais, je sais que justement, j'ai pris un peu goût à ça. À me faire lire parce que c'est très satisfaisant genre d'avoir un retour positif. Et quand je fais ça, genre quand je les envoie, souvent bah, des fois j'ai pas de retour. Parce qu'il y a des gens, genre je sais qu'ils aiment pas trop en parler, qu'ils savent pas trop comment dire, juste ils me disent j'aime bien ou ils ont la réaction genre sur Messenger avec genre j'adore et tout. Et du coup là, mais ils me disent pas plus et ça me va parce qu'en vrai, genre c'est pas des gens de. En général, c'est pas des personnes dont j'attends plus. Parce que c'est pas leur milieu et que juste voilà quoi. Et qui cherchent pas forcément une analyse. J'ai d'autres personnes qui ont des retours beaucoup plus analytiques et justement qui vont me dire des choses négatives. Et ça, en vrai, c'est important. Parce que justement, comme c'est très souvent mes proches, même si c'est des gens avec. Pas forcément des gens que je vois tous les jours, et que ça fait longtemps, mais genre ça reste des proches. Et du coup, il y a trop de chances que ça soit biaisé sur ce niveau-là. Et donc ouais non ça m'apporte ouais un retour positif en fait constamment. Enfin constamment. C'est un peu un rappel de se dire que tu fais des trucs bien. Ça, ces gens-là ont aimé, ces personnes-là n'ont pas aimé. Et voilà. Et ouais, non, il y a. Enfin non voilà. Je pense que c'est surtout ça. Et la volonté de progresser aussi du coup. Et de faire des trucs un peu plus cherchés, un peu plus profonds. Ouais.
Et est-ce que t'as des personnes qui font la même chose avec toi, qui t'envoient des textes à toi?
Alors oui, malheureusement, parce que je suis trop nul vraiment pour lire les textes des autres. Enfin vraiment, genre je peux mettre des mois et des mois quand c'est pas des années. Parce que ça m'est. Je crois que ça m'est arrivé. Et bah justement en fait j'oublie. Comme je lis pas, bah, je lis pas non plus ce qu'on m'envoie. Donc c'est pas ouf parce qu'en fait c'est des gens que j'aimerais aider dans l'écriture. Parce qu'ils m'aident. Et moi je le fais pas. Et du coup, j'essaie de me forcer un peu de le faire et de me mettre dans une espèce d'état d'esprit où je lis quand même et tout. Mais c'est pas facile. Et du coup, ouais, genre, j'ai pas mal de textes de gens qui m'attendent. Genre, en général, quand on l'envoie, genre, en discussion instantanée ou quoi, sur Messenger, tout comme ça, j'ai tendance à le lire directement. Quand c'est pas le cas, je le fais, je pense, après. Sinon, en général. C'est des gens qui me connaissent, du coup ils me renvoient un message en mode lis-le s'il te plaît. Sinon c'est genre des trucs qui attendent pendant très longtemps, soit sur mon ordi, soit sur mon portable et que je lis jamais. Mais du coup, ça me fait un peu chier en vrai.
Est-ce que c'est un truc que tu aimerais corriger?
Ouais. Mais pour ça, il faut que je reprenne goût à la lecture. Et.
Oui, parce que c'est ça en fait. Quand on voit le texte,
Bah, je
c'est
vais
pour
l'éteindre.
t'habituer à être lu, mais ouais, je vois. C'est pas parce que t'envoies un texte en fait que t'as ce qu'il faut en toi pour lire ceux des autres.
Ouais.
Enfin, quand je dis t'as ce qu'il faut en toi, je veux dire le temps, l'énergie, l'envie. C'est pas un partage forcément
Bah, c'est
réciproque
surtout. Ouais,
en
c'est ça, c'est
fait.
surtout l'énergie, enfin l'énergie. Surtout l'envie en fait. Lire, ça me fait chier parce que c'est plus lent. Et en fait, depuis que je me rends compte que les séries peuvent faire ça, enfin peuvent me motiver et me montrer quelque chose, bah enfin c'est plus simple de regarder une série pour apprendre des choses sur l'écriture plutôt que de lire un livre. Et en vrai, c'est débile parce que bah. C'est aussi une source de savoir,
Bah, c'est sûr que le temps que tu passes à regarder ta série, tu pourrais le passer aussi à lire un livre, mais c'est un effort qui est vraiment différent. Et...
Ouais,
enfin, moi,
ça.
Je l'expérimente aussi si je lis, quand je me force vraiment à lire et pas à d'autres moments. C'est très très peu naturel en général. Mais quand, par exemple, quand toi tu m'envoies des textes, mon premier réflexe c'est d'avoir la flemme, mais je me dis toujours, bah, fais-le quand même, parce que je sais pas, c'est cool. Enfin...
Ouais, mais tu vois, ça me dérange pas que t'aies la flemme et que tu me répondes genre grave plus tard. J'ai une pote notamment de La Rochelle, elle est trop forte pour ça. D'ailleurs, dédicace à Canel, parce que je sais que je vais la forcer à l'écouter. Et qu'elle me répondra sûrement dans 3 ans. Mais en vrai, genre, ouais, je lui envoie des textes. Et vraiment, à chaque fois, dans la conversation, il s'accumule. Et elle me renvoie une réponse, mais genre, peut-être 1 ou 2 mois plus tard. Où elle fait, ah putain, tes textes sont trop bien. Et en vrai, on a une relation grave pote et tout. Et c'est pas genre juste moi qui parle tout seul. Enfin, si, parce que du coup, elle répond pas. Et du coup, ça me fait rire, parce que vraiment, je fais des blagues là-dessus en mode, yo, t'es morte. Ben, j'espère que c'était bien les funérailles, des trucs comme ça. Mais du coup, genre, ça me dérange pas parce que je sais que c'est sincère quand elle me dit que mon texte lui plaise et qu'en plus, c'est une des personnes qui réagit le plus quand elle me répond. Du coup, elle répond vraiment à mes textes et tout en mode j'ai trop aimé, ça c'est beau et tout, ça j'aime bien. Et du coup, donc, ça fait beaucoup de bien.
C'est plutôt sain en plus parce que du coup, elle se force pas à te répondre sur le moment, mais quand elle te répond, elle prend le temps de répondre. En
ouais, fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Et du coup, ouais, non, ça fait vraiment du bien quand c'est le cas. Mm. Mais du coup, voilà. Donc, je peux attendre des fois longtemps. Mais voilà.
Ok. Je crois qu'on arrive vers la fin de ce que je voulais aborder. J'avais une question plus dans les échos que ça peut avoir avec le reste de ta vie, ta perception du futur, etc. C'était comme. Être écrivain, c'est ton projet d'avenir, parce qu'on ouais. l'a pas dit beaucoup, on l'a pas dit plus tôt, mais c'est ce que tu veux être plus tard, c'est genre ouais, le ouais. métier que tu veux faire.
C'est le seul truc qui me...
Voilà. Quelles sont les peurs qui peuvent être liées à ça, d'avoir comme projet professionnel d'être auteur, et les pressions que tu peux recevoir ?
Il y en a plein en vrai, parce que ben, le nombre de fois on m'a dit c'est pas un métier... Enfin voilà, genre arrête tes conneries et trouve un vrai truc. Et ça vient peut-être du fait que je sois borné et une mauvaise foi et que j'ai pas envie d'attendre, que j'ai pas envie d'attendre d'avoir tort pour essayer. Mais enfin, oui, ça vient de là, c'est sûr. Mais quelque part, je sais pas, je me dis que ça me ferait chier de devoir faire un faux métier entre guillemets où j'écrirais à côté parce que je sais que. Pour être à l'aise dans ce métier, il faudrait que j'utilise beaucoup d'énergie et pour être suffisamment genre comment dire autonome pour pouvoir être en mode le soir je vais rentrer je vais écrire et que du coup ça me prend de l'énergie aussi et genre je serais trop vidé parce que justement par exemple l'été j'arrive presque plus à écrire parce que justement je travaille quoi et ouais non du coup c'est assez compliqué à gérer parce que même au niveau de mes études, hein, genre, je sais que là j'ai trouvé mon master, enfin, j'ai trouvé ce que je veux faire, enfin, celui que je veux faire. Et en vrai, je l'ai trouvé en sortant de terminale parce que j'ai eu de la chance et que j'avais une prof qui écrivait déjà et qui m'a essayé de m'orienter et tout vers des trucs, enfin, qui a fait des recherches juste pour moi. Et du coup, j'ai pris ma licence un peu au pif parce qu'il en fallait une pour aller au master. Mais ouais, en vrai, c'est assez flippant. Des fois, j'ai des phases vraiment où je me dis, mais. Enfin, bien sûr que je vais finir à la rue, quoi. Enfin, c'est... Mais voilà, je sais pas, genre, ça continue de me mener, on va dire. Et je reste pas persuadé, mais je préfère croire que ça va marcher et que je vais devenir riche grâce à ça, plutôt que me dire que ça va se casser la gueule forcément à un moment. Et c'est pas bien de se dire genre je vais avoir la conséquence obligée genre la richesse et la célébrité alors que je fais ça parce que j'aime ça mais je sais pas c'est peut-être un moyen de se mentir et de se dire que ça va marcher quoi
peut-être donc, un moteur du coup
ouais je pense
une façon de pas te freiner
ouais bah je pense que c'est mettre de côté le fait qu'il y a des doutes quoi enfin mettre tous les doutes de côté et d'être en mode bah ok et de plus en plus j'en suis fier parce que genre quand je peux en parler et tout, je le dis ouvertement. Avant, c'était pas trop le cas. J'étais là, non, je veux faire des études d'audiovisuel et tout pour être scénariste.
Enfin, alors que enfin, si je veux être scénariste, enfin, je le serais sûrement parce qu'en vrai le cinéma m'intéresse, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire, quoi. C'est pas genre. Enfin, c'est partie de l'écriture, mais voilà, quoi. Je veux pas faire que ça. Et ouais, non, les obstacles par rapport à ça, c'est la comparaison, en fait. C'est par exemple, mon petit frère fait des études en mécanique agricole.
Ouais.
Et il est apprenti. Et l'avantage, c'est qu'il a déjà un salaire. Et il y a ce truc où je me suis tout le temps dit, il s'en sortira forcément parce que déjà, il est passionné par ce qu'il fait. Et que tout le monde l'adore dans le milieu, quoi. Enfin, genre, tous les gens qui ont bossé avec lui, ils sont trop contents de ce qu'il a pu faire. Et je le place. Hein. C'est le meilleur apprenti, enfin, c'est un des meilleurs apprentis de France, médaille d'or, vraiment, voilà.
Ouais.
Enfin, je suis pas la pression. Et bah, du coup, oui. C'est ça.
La pression. Ouais.
Du coup, c'est ça, c'est la pression que je mets par rapport à ça. Et ouais, le fait qu'il ait déjà un salaire, que pour lui, ça soit un peu tout tracé, et que. Et qu'ils savent déjà où il va, et que pour lui, en fait, il a une assurance, quoi. Il trouvera forcément du métier parce que c'est un manuel et que voilà, il aime être dehors, il aime faire des activités physiques, quoi. Et il gère son surplus d'énergie comme ça, et moi autrement. Et du coup, genre, enfin, voilà, je pense que j'ai tout le temps eu un doute par rapport à ça, et même dans ma famille en général, genre. Ouais, mes frères et sœurs, c'est sûrement le pire, parce que les autres, genre tout ce qui peut être amis, qui font d'autres choses, ça me fait pas peur, parce que je suis content pour eux, et que y a pas trop le regard de mes parents en plus, tu vois. Et là où, en vrai, genre, mes parents me soutiennent beaucoup, et du coup, bah, ça fait que je culpabilise un peu de ce soutien, et du coup, là, et je suis sûrement hors sujet, beaucoup.
Non, non, parce que c'est ce que je te demandais, tes peurs et les pressions que ça pouvait faire.
Ouais,
et le fait que t'es ton frère qui, lui, a un avenir beaucoup plus précis, ça fait partie de ses pressions, et la culpabilité par rapport à tes parents, c'est exactement là où je pensais.
Et d'ailleurs, c'est assez ironique, parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, après une embrouille avec mon frère, où justement, lui, il avait la peur inverse, et il se disait qu'il avait un sous-métier par rapport à moi qu'elle allait faire un truc, qu'elle allait me mener trop loin et tout. Et qui faisait très. Pas bobo, mais tu sais. Enfin. Je sais pas comment dire ça, mais genre grandes études. Enfin, ouais, c'est ça en fait. Le fait que je fasse un master après. Que
l'intellect, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et alors que je t'aime, mais pas du tout, mec. Vraiment.
C'est exactement ce que j'étais en train de penser, parce que. T'as évoqué un peu avant la honte de te dire auteur et de devoir te placer plus dans le milieu du cinéma.
Ouais,
tu vois.
Et c'est pas parce que c'est un sous-métier non plus, hein, c'est...
Auteur, non, c'est encore autre chose. Je crois qu'il y a un truc aussi derrière le fait de devoir s'affirmer auteur qui est un peu bizarre pour beaucoup de gens.
Oui, mais moi je me considère pas comme auteur.
Ouais,
je pense que ça sera une... Enfin, je pense que je pourrais le dire une fois que j'aurais été publié une première fois.
Mais pourquoi autant de pression?
Je sais pas, je pense que c'est parce qu'on sacralise le nom et qu'on est en mode... non, enfin, tu vois, genre, c'est comme si... Parce qu'en fait, je pense que c'est parce que les gens... Enfin, les auteurs célèbres, ben, on les appelle les auteurs, justement, en fait.
Ouais, mais il y a des scénaristes célèbres.
Oui,
tu vois,
clairement.
Et on sacralise pas du tout le métier de scénariste.
Oui, mais parce que, ben, du coup, on les appelle les auteurs, tu vois.
Ouais.
Parce que, enfin, il y a ce truc.
Ouais.
Ouais, du coup, ça revient un peu à genre le livre est supérieur au scénario de film, alors que, enfin, je trouve pas. Enfin, je trouve que tous les arts se vaut entre eux, quoi. Enfin,
se
compensent entre eux, quoi.
De toute façon, c'est des schémas de la société, c'est pas ce que toi tu penses, je pense. Parce que...
Non, clairement pas.
Ouais,
clairement pas. Bah, la preuve est que je lis plus de livres et que je regarde beaucoup plus de séries que je regarde que je lis de livres. Donc voilà.
Et du coup, le lien que je voulais faire avec ça, c'était que il y a un peu une difficulté à se dire auteur quand on écrit. Moi, je considère qu'on est auteur à partir du moment où on écrit. Enfin, je suis pour le fait de désacraliser ce truc de auteur, c'est la personne qui a déjà écrit un livre, qui est fini, qui est publié. Si tu considères que ce que tu fais, c'est écrire, tu es auteur. Enfin, c'est comme sacraliser... Moi, pendant longtemps, j'ai sacralisé la créativité et je pensais que j'étais quelqu'un qui ne créait pas et qui ne faisait que consommer. Puis après, je me suis dit, mais Enfin, même si tes trucs, ça rentre pas dans les cases apparentes de la créativité, t'es quand même créative. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est à une autre échelle, auteur, ça le fait aussi de... Ouais. Il faut que j'ai fait mes preuves pour me dire auteur.
Ah ouais, c'est vrai. Et après, je pense que... Bah, tu sais, c'est comme artiste, genre...
Ouais.
Jamais je me dirais, genre, je suis un artiste, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est pareil avec les peintres, par exemple, que jamais quelqu'un qui peint se dit « je suis peintre », tu vois. Genre...
Ouais.
Tu te dis, genre, je fais de la peinture.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et je pense que cette sacralisation, ça a un peu un lien avec la honte que pourrait avoir ton frère, par exemple, et cette idée de complexe d'infériorité ou des choses comme ça.
Pour atténuer le complexe d'infériorité, tu veux dire
Non, justement, ça l'accentue, parce que le fait qu'on sacralise ce style de...
Ah oui, d'accord, je vois.
Tu vois
ah ouais.
Les artistes... Lui,
il a ce regard sur ça, alors que...
Voilà, c'est ça. Et lui, il te considère dans ce monde-là, et toi, tu veux pas te considérer dans ce monde-là, mais pour lui,
Ouais, mais après, tu vois, genre, j'aimerais y être, tu vois. Mais il y a ce truc où, genre, pour lui, je le suis déjà plus ou moins... Ouais, c'est ça, ok, c'est ce que tu dis.
Ouais, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Mais c'est bien, comme ça, si les gens comprennent pas, peut-être qu'ils comprendront mieux.
Mais ils comprennent que moi, je suis en train de comprendre.
Je suis un bon Google, nickel.
Non. Mais en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que il y a dans un podcast de Nouvelle École, avec comme invité Sophie-Marie Larouy...
Ouais, je l'ai pas encore
écouté. Comment ?
Je l'ai pas encore écouté.
Il va beaucoup te plaire, et ils parlent ensemble, donc Sophie-Marie Larouy et Antonin Archer, le créateur de Nouvelle École, de...
D'ailleurs, écoutez, hein, c'est vraiment bien. Hein.
Écoutez, c'est génial. Nouvelle École, c'est une de mes inspirations pour ce podcast. Et il parle de... des gens qui se satisfont d'un métier qui n'est pas intellectuel et qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'être tout le temps... Parce que quand tu fais un métier intellectuel, t'as pas d'horaire, t'as pas de salaire fixe. Enfin, comment dire... C'est intellectuel, je parle artiste, je parle pas journaliste ou quoi que ce soit. Je parle plutôt de mes métiers dits artistes. Où il y a une certaine instabilité autant financière, matérielle et émotionnelle pour la plupart, je pense. Mmh. Et il disait que c'est quand même aussi une chance que ta passion ce soit quelque chose qui t'amène de la sécurité matérielle et émotionnelle et qui fait que t'es une personne quand même stable et
Ouais, mais non, parce qu'en fait t'es stable sur un point mais t'es tellement instable de l'autre, tu vois.
Ouais.
Genre je pense que ça se voit dans des personnes de ma famille, mais je pense que quand t'es stable matériellement et financièrement, c'est du coup compliqué d'être stable psychologiquement des fois, parce que c'est ta passion, enfin je sais pas, enfin moi je le constate en tout cas, et souvent ouais c'est des gens qui doutent d'eux, et qu'on, du coup je pense que le fait d'être artiste, entre guillemets, parce que voilà, mais...
On a du mal avec ça. Hein.
Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a une forme d'introspection constante où tu réfléchis tout le temps sur toi-même parce que du coup, genre, c'est vachement personnel, c'est vachement de toi, tu vois. Genre, quand tu portes des palettes, tu sais, enfin, c'est facile, tout le monde... Enfin, c'est facile. Enfin, en fait...
T'es pas impliqué dedans.
T'es deux bras, en fait. Tu vois, genre, vraiment, t'es juste deux bras. Et oui, du coup, ben, entre guillemets, tout le monde peut le faire, dans le sens où tout le monde a, enfin, les gens qui ont deux bras peuvent le faire.
Oui.
Mais tu vois, genre, quand tu fais quelque chose genre, qui vient de toi-même, forcément, du coup, tu penses, enfin, il y a une part de... Enfin, tes doutes, en fait, sont dans ce que tu fais. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que le fait d'être remplaçable, le fait d'être... de pas faire ce que, enfin pas faire ce que, enfin c'est pas ne pas faire ce que tu veux, mais faire quelque chose que d'autres pourraient faire et peut-être ne pas se sentir unique par rapport à ça, et du coup ne pas trop penser à ce que t'es toi, mais plus à ce que les gens voient de toi en tant que fonction de ton métier, quoi.
Mmh.
Et du coup ouais, je pense que en fait ça te déstabilise vraiment émotionnellement et psychologiquement, et du coup ça fait que tu peux te remettre en doute très facilement et que ça devient difficile très vite de gérer ça, tu vois.
Donc c'est plus par rapport à l'ego, du coup. L'ego, pas le Lego, parce que du coup moi, je suis en train de penser c'est... au Lego, pas le Lego,
parce
le
que
jeu.
Maintenant que je t'ai mis cette image en tête.
Mais c'est plus par rapport à l'ego dans le sens où l'artiste, du coup, on a ce truc de c'est lui qui s'exprime, donc il est plus unique. Alors que la personne qui fait un métier, moi j'allais dire métier dit normal, on est vraiment dans une société qui cadre vraiment qu'est-ce que c'est un métier et le fait qu'artiste, bon, c'est pas un métier quoi. Genre, même moi, j'interrogerais ça.
Ouais, mais
du coup, pour les métiers plus manuels ou les métiers avec des horaires de bureau, etc., etc., il y a plus ouais, ce côté de t'es un pion parmi tout le reste et on pourrait mettre un autre pion à ta place.
Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out et tout, c'est que les gens
ont besoin d'être eux-mêmes.
Et je pense, enfin, je suis pas sûr de ça parce que j'ai pas d'exemple, mais je pense que c'est des gens qui font beaucoup de choses à côté.
Ouais.
Et du coup, ils font des choses pour compenser un peu ça, je dirais. Et c'est aussi ce qui fait qu'ils ont des burn-out parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer et qu'au final.
Ça peut être une des raisons, ouais. Ouais, ouais.
Enfin, voilà.
D'étouffer sa créativité, du coup, qui est chez chacun, en fait.
Ouais, c'est ça.
Au quotidien pour. Ok, bon, là on est parti dans un débat. Qu'est-ce que c'est être un artiste ?
Bienvenue dans Dérision de podcast. Ça s'appelle le Floodcast en fait. Écoutez aussi, c'est trop bien.
Ouais, Louis est très fan du Floodcast. Ouais. Moi j'ai des réserves sur certains points, mais j'aime beaucoup.
Adrien Méniel, je t'aime. Voilà. Je comptais le dire.
Non, mais Adrien Méniel, si tu écoutes ce podcast, Louis. Copie son comportement sur toi, c'est pas possible de faire plus en toi plus, c'est
vraiment,
que lui.
C'est vraiment pas fait exprès, c'est vraiment parce que genre, je les écoute tout le temps, lui et Flaubert, et du coup, genre, au bout d'un moment, j'ai des mimiques qui viennent, et en fait, j'ai le visage d'Adrien Méniel dans la tête.
Non, mais tellement.
Et je me rends compte que c'est la même chose, mais après.
Tellement, c'est.
Ça va, ça aurait pu être clair, donc je me dis qu'Adrien Méniel.
C'est pas le pire.
Ouais. Imagine ton idole, c'est Hitler, ouais, c'est chaud.
Ouais, ça s'appelle être néo-nazi. Revenons dans le sujet pour conclure cette interview. Après ce débat philosophique sur les métiers, on n'a pas de conclusion, on n'a pas de solution d'ailleurs, parce que...
Bah non.
Voilà.
Parce qu'au final, ça reste sur la perception des gens.
Voilà, c'est ça. Et puis, c'est un problème très 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 large qu'on va pas du tout résoudre. Mais en tout cas, ce serait bien, à notre échelle à nous, de se dire que auteur, c'est un métier.
Ouais.
Que être artiste c'est quelque chose qui peut s'assumer et que il y a pas les artistes et les autres, enfin faudrait, je sais pas, faudrait trouver un truc où.
Mais je pense qu'il y a ce truc de l'école déjà où t'es formaté comme ça, tu vois. C'est un peu comme c'est un peu comme ce truc où je repars dedans du coup, tu voulais terminer mais non.
Essaie de partir sur une conclusion quand même si tu peux.
Non mais ouais, bah en fait ce sera, je pense ça ma conclusion, c'est le fait que l'école on t'apprend à être bon sur certaines, enfin on veut que tu sois bon sur les matières de l'école, mais en fait c'est juste, enfin parfois t'es pas bon à ça et juste faut que tu fasses autre chose qui te correspond plus, enfin faire, en fait pour moi ouais, c'est ça, c'est faire ce qu'on aime,
ouais,
et s'axer là-dessus en fait, genre vraiment se baser sur ce qu'on aime et ce qu'on est sûr d'aimer, parce que ça peut être compliqué parfois de se rendre compte de ce qu'on aime et de ce qu'on veut faire entre guillemets
et ce dans quoi on est bon aussi,
ouais,
c'est satisfaisant d'être bon dans quelque chose,
c'est ça. Ben, soyez égocentrique et dites-vous je suis le meilleur dans ça. Donc, voilà.
Et vous réussirez peut-être. Je mets le peut-être. Ok, donc pour conclure cette interview donc, sur l'écriture, est-ce que tu as des ressources, des conseils et des tips pour les personnes qui écrivent, qui sont intéressées par l'écriture ou qui peuvent se reconnaître en toi dans cette interview ?
Je dirais, c'est vachement compliqué comme question parce que j'ai envie de dire plein de trucs. Je pense que je dirais que c'est continuer à écrire, peu importe ce que les gens peuvent dire, parce que si c'est ce que t'aimes, bah fais-le. Et que même si c'est compliqué de tout le temps le faire, et par exemple de battre la page blanche, de faire quelque chose et que par exemple être jugé là-dessus, et en fait je me rends compte que je dis des trucs et je sais pas du tout où je vais en disant ça.
Oh, mais on te suit.
C'est bien, donc je suis vraiment le pire guide du monde. et non, ouais, voilà, je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on aime, peu importe ça, et essayer de découvrir en fait, essayer de découvrir et de comprendre les choses, comprendre comment on marche, ça, les choses, et je pense que quand on découvre... Vas-y, je peux donner un exemple. Parce que j'ai une amie qui écrit et elle a regardé le même manga. Bah, Roxane va se reconnaître. En fait, elle a tendance à regarder tout le temps le même animé. Et vraiment, je pense qu'elle le connaît par cœur. Elle l'a regardé 37 fois parce que vraiment, elle l'aime beaucoup. Mmh. Mais j'ai tendance à lui dire arrête de le regarder
Et vraiment, regarde-en d'autres. Et je le fais vraiment genre en la harcelant limite, en lui disant regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Mais vraiment qu'avec tout le temps le même manga, jusqu'à ce qu'elle regarde, et je recommence dès qu'elle a changé, tu vois. Et je pense que ouais, c'est ça, c'est genre vraiment se forcer à regarder autre chose. Et si c'est nul, bah t'en tires des conclusions quand même, et t'en apprends, parce que tu sais chercher pourquoi c'est nul. Et si c'est bien, bah justement, tu regardes et tout, et tu te dis genre j'ai ressenti ça, et c'est trop fort. Donc dans le meilleur des cas, moi je ressens l'énergie qui fait que j'ai envie d'écrire tout de suite. Et dans le moins, pas le pire, parce que voilà, mais dans un cas un peu plus faible, on va dire, la série, je suis quand même en mode, ah c'était cool, tu vois, et tout, genre ça c'était intéressant. Je pourrais peut-être faire ça dans tel truc, le changer comme ça, parce que voilà, mais ok. Tu vois, genre un peu absorber les formes de ce qu'on voit. Et voilà, et remettre en question un peu son écriture dans le sens où toujours essayer de progresser et voilà.
Ok, bah c'est des bons conseils, je pense.
Ouais, enfin, je fais de mon mieux.
L'humilité toujours, toujours.
Inexistante.
On a terminé ce podcast. Merci Louis d'avoir accepté de parler de ton écriture.
Là, par contre, c'est Arsène, donc voilà.
Merci Arsène River d'avoir accepté de parler de ton écriture et des choses autour. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou si c'est pas le cas d'ailleurs. Et je pense continuer à l'explorer en tout cas et essayer de vous proposer du contenu un peu différent, surtout au niveau des longueurs, pour que chacun puisse s'y retrouver selon le temps qu'il veut passer et sa façon de... Enfin, ce qu'il recherche dans le projet. Prenez soin de vous, passez de belles journées, entretenez votre créativité quand vous la sentez venir, acceptez-la aussi. Et bisous!
Et soyez les meilleurs!
Sans pression toujours, hein, parce que la pression, hein, ça fait mal.
C'est bien le mec.
Donc sois le meilleur sans pression.
Voilà, sois le meilleur, mais calmement.
Bisous!